Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. Emmanuel Macron est prêt à édulcorer sa réforme des retraites. Il reste 12 jours avant le second tour dans une élection où chacun des deux candidats suscite pas mal d'animosité. L'Info C'est clair est intitulé « Emmanuel Macron peut-il perdre ?» Nos invités, Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Libération qui titre aujourd'hui Emmanuel Macron au charbon. Par ailleurs, vous êtes l'auteur de la trilogie de Polar sur le conflit israélo-palestinien. Balagan, Adieu Jérusalem et Les Lumières de Tel Aviv, c'est aux éditions Rivage Noir. Bérangère Bonte, vous êtes journaliste, auteur de la biographie sur Édouard Philippe Le Sioux. C'est aux éditions de l'Archipel. Et enfin, Julien Nenny, vous êtes journaliste politique à France Télévisions, chargé du suivi de la droite. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, Emmanuel Macron, c'est le news, comme on dit, s'est dit prêt à reculer sur sa réforme de la retraite et de ne plus forcément la porter à 65 ans, comme il l'avait prévu. Il dit vouloir enrichir son programme. Voyez ce sujet de Léon Maron.
C'est sans doute la proposition la plus controversée du président candidat, la retraite à 65 ans. À Carvin, dans le Pas-de-Calais, c'est en tout cas celle qui suscite le plus d'incompréhension chez les habitants.
La retraite à 65 ans, non. Alors, non. Ceux qui sont dans les bureaux, oui. Mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez, travail dur, non. Pas d'accord.
Eh bien, on n'est pas si loin. Vous voyez, on progresse.
La réforme divise, alors Emmanuel Macron lâche du lest. Il envisage finalement un report de l'âge de départ en retraite à 64 ans, plutôt qu'à 65 comme prévu au départ. Face aux électeurs, il insiste aussi sur une réforme progressive. Dès 2023, l'âge de départ serait retardé de 4 mois par an. Enfin, il reste flexible sur le calendrier.
J'ai donné un horizon qui est à 2030. Il n'y a pas de fétichisme. C'est-à-dire que si on doit se donner un horizon plus court pour bouger l'âge de référence, ça peut faire partie des choses qu'on discute.
Le président candidat n'exclut pas non plus un référendum sur la question des retraites s'il est réélu dans 13 jours.
Alexandra Schwarzbrod, il recule, là, il est sur la défensive. Vous avez titré, avant le second tour, une approche un peu gauche. Donc il y a un jeu de mots, j'imagine.
Bien sûr, Emmanuel Macron n'est pas idiot. Il a bien compris que la gauche, il avait perdu la gauche depuis un certain temps. Et donc là, on voit bien qu'il recule sur les dossiers qui justement bloquent à gauche, et notamment et surtout celui de la retraite. Ça, je pense que c'est une erreur magistrale qu'il a faite de mettre sur la table 15 jours avant l'élection la réforme de la retraite et la retraite à 65 ans. Erreur magistrale, et il est en train de le réaliser. Et là, on voit bien...
Pourquoi ? Parce que le second tour va être un référendum pour ou contre la réforme à la retraite à 65 ans.
En face, Marine Le Pen propose la retraite à 62 ans, voire 60 ans pour ceux qui ont démarré tôt. C'est tout à fait ce qui convient à la plupart des Français. Et là, du coup, elle a un boulevard devant elle. Et là, on voit bien, hier, c'était flagrant, il est sur la défensive. Ouais. Là, maintenant, on avait jusqu'à présent, et notamment aux dernières élections, c'est pour ça que quand certains disent c'est la même chose qu'il y a 5 ans, tout va bien se passer, le débat va mal se passer, et donc il est sûr de l'emporter. Non, il n'est pas sûr de l'emporter. Votre thème, c'est Macron peut-il perdre ? Oui, il peut perdre. On le voit bien dans cette dernière séquence. Marine Le Pen, elle, est sûre d'elle, et Emmanuel Macron n'est plus sûr de lui. Il a conscience qu'il est entré en campagne trop tard, qu'il a mis les mauvais dossiers sur la table et qu'il perd du terrain. Et surtout qu'il a perdu la gauche, que les 20 et quelques pourcents de Jean-Luc Mélenchon n'iront, à mon avis, en grande majorité, pas voter pour lui.
Bérangère Bonte, titre du Figaro, Macron accélère en se tournant vers sa gauche, parce qu'autrefois, ou il y a 5 ans, il y avait ce qu'on appelait le front républicain. Donc c'était tranquille face à Marine Le Pen. Hop, c'était barrage, no passaran. Enfin, no passaran dans l'autre sens. Mais et là, ça existe beaucoup moins, ça.
La troisième fois, c'est comme la chef de M. Seguin, quoi. Ouais. La troisième fois, il y en a quand même un certain nombre, et notamment dans l'électorat de gauche et dans l'électorat écolo, qui ne se déplaceront pas, qui disent cette fois-ci non. C'était déjà le débat, souvenez-vous, était déjà assez prégnant en 2017, ce sentiment de déjà-vu de 2002, où là, il y avait vraiment l'effet de surprise et de nouveauté, et les tripes avaient parlé, et la France était descendue dans les rues, et ça, c'était 2002. Cette fois-ci, la troisième fois, ce n'est pas du tout certain que ça fonctionnera. C'est intéressant de voir depuis 24 heures, je trouve néanmoins, quelques voix, et je pense que ça n'est pas terminé, notamment à gauche, qui commence vraiment à... J'entendais ce matin Bertrand Delanoé, qu'on n'a pas du tout entendu, et qui vient, mais très fort, c'est plus qu'un soutien du bout des lèvres à Emmanuel Macron. Là, c'est cette fois-ci, n'oubliez pas ce qu'est le Front National, ils disent tous Front National et oui, le Rassemblement National.
Emmanuel Macron hier a dit Front National, voilà. Comme mais, pour raviver
mais
le Front
il l'a dit pendant toute la campagne, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul, d'ailleurs, histoire de rappeler que ce parti est un parti qui, depuis 50 ans, prône des thèses racistes, xénophobes, et la diabolisation qu'a mis en place Marine Le Pen, notamment pendant cette campagne, un certain nombre de voix, je vous dis, c'était frappant avec Bertrand Delanoé, je pense qu'on va en entendre d'autres pour rappeler qui est qui.
Julien Nenni, alors c'est Alexandra Schwarzbos le disait à l'instant, jusqu'à présent, il n'a pas fait campagne. Là, pour le coup, c'est Emmanuel Macron au charbon, il a un programme chargé. D'ailleurs, petite info, il sera demain au 4V sur France 2, je propose. J'en profite pour
faire le... Donc il s'exprime sur France 2, finalement.
Oui, demain.
Bien ça.
Voilà.
Oui, Emmanuel Macron change complètement sa stratégie, c'est clair. Il fallait d'abord siphonner la droite. Bon, qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Vous avez vu le score de Valérie Pécresse, elle n'existe plus. Elle a disparu de la circulation, c'était la retraite à 65 ans. C'était son programme pompé sur celui de Valérie Pécresse. Vous vous souvenez, la contrefaçon, disait l'ex-candidate LR. Maintenant que les réserves de voix sont à gauche, avec les 22% de Jean-Luc Mélenchon, il faut changer de cap. D'où, eh bien, cette petite semi-reculade déjà sur la retraite, cette réforme totem qui effraie tant les électeurs de gauche, et en particulier ceux de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, Emmanuel Macron, il est comme nous, regarde les sondages. Hein. Dimanche soir, sondage Ipsos, les reports de voix pour Emmanuel Macron en vue du second tour, bah, c'est simple, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, les 22% du leader de la France insoumise, ils sont divisés en trois tiers. 34% disent dans ce sondage Ipsos qu'ils iront voter pour Macron, 30%, c'est énorme, pour Marine Le Pen, et la majorité de peu, 36%, qui ne veulent pas rester à la maison le jour du second tour. C'est donc là, tout simplement, qu'est la clé de la victoire d'Emmanuel Macron. C'est la grande différence avec 2017. On l'a dit, il y avait le Front Républicain, les réserves de voix étaient largement de son côté. Cette année, ce sera beaucoup plus serré parce qu'il y a ces problèmes de report et ces problèmes de réserve, alors que Marine Le Pen, par exemple, eh bien, en a beaucoup plus qu'en 2017. C'est ça la grande différence.
Alors, Emmanuel Macron au charbon, qui va donc aller sur le terrain. Il était hier en terre frontiste, hein, là où le Rassemblement National fait d'excellents scores. Je vous propose justement d'écouter ces électeurs de Marine Le Pen de la première heure. On va d'abord écouter donc une électrice interrogée en Normandie par Benjamin Delombre.
Vous avez toujours voté Marine Le Pen?
Toujours.
D'accord.
Toujours. Mon mari aussi, toujours.
Qu'est-ce qui vous plaît?
Elle est pour les ouvriers. Déjà. Moi, j'estime qu'elle est plus pour les ouvriers, pour les jeunes.
Quand on dit Marine Le Pen, elle est d'extrême droite, ça vous parle, ça, ou vous dites ça ne me touche pas?
Moi, je sais que ça ne me touche pas tellement.
Une autre militante qui est venue soutenir hier Marine Le Pen en déplacement dans Lyon, et elle raconte les fins de mois difficiles. On l'écoute.
Vous avez connu le besoin, vous savez ce que les gens peuvent ressentir quand le frigo est vide et que votre enfant vous dit « Maman, je voudrais un yaourt » et vous lui répondez « Tu m'excuses, tu manges ce qu'il y a dans le frigo ». Il faut se mettre à la place de ces gens-là. Marine, c'est l'espoir.
Marine, c'est l'espoir. Alexandra Schwarzbord et Macron, ça n'est plus l'espoir. Ça n'est pas l'espoir.
Ben en tout cas, ce n'est plus l'espoir d'un certain nombre de gens. C'est vrai qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron avait été élu parce qu'il incarnait la nouveauté. Il voulait faire la politique autrement. On se souvient de l'ancien monde. Et donc, ça avait soulevé beaucoup d'espoir parce qu'il y avait une grande lassitude, justement, de cette, la politique à la papa, comme on disait. On voulait autre chose. Et puis, le problème, c'est qu'il a déçu beaucoup de gens. Emmanuel Macron, il a déçu, et notamment à gauche, parce qu'encore une fois, il a mené une politique de droite. Et surtout, tous ces jeunes qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon, ce sont ces jeunes aussi qui manifestaient pour le climat.
On va en parler.
L'écologie, je pense qu'il a fait une erreur dramatique en n'accordant pas plus d'importance à la question environnementale. Et là, on l'a bien vu il y a quelques semaines avec le rapport du GIEC qui prévient, qui alerte une fois de plus en disant qu'on a 3 ans. pour redresser la barre. Le problème, c'est que là, on vient de perdre 5 ans sur ce sujet. Et c'est pour ça que les jeunes, sans doute, pour beaucoup, ne se déplacent pas pour voter Emmanuel Macron.
Bérangère Bonte, on entend cette dame dire ne plus avoir de yaourt dans le frigo. Et la précédente disait, Marine Le Pen, c'est le vote ouvrier. Est-ce qu'au fond, ce qui se joue là pendant ces 10 jours, c'est aussi une lutte des classes, un vote de classe entre la France qui va bien d'Emmanuel Macron et la France qui a le frigo vide de Marine Le Pen?
Mais on a vécu un vote de classe dimanche. Toutes les études sociologiques un peu là qu'on décortique maintenant 48 heures plus tard sur le détail du vote le montrent. Quand vous regardez les populations qui gagnent plus de 3000 euros, ils ont voté prioritairement pour Emmanuel Macron, plus d'un tiers, là où ils sont très minoritaires chez Marine Le Pen et chez Jean-Luc Mélenchon. C'est un électorat d'ailleurs assez similaire de ce point de vue-là. Et l'inverse est vrai aussi. Les classes populaires ont prioritairement voté pour Marine Le Pen. Et quand Emmanuel Macron tente d'élargir le spectre là depuis dimanche et de s'adresser, de tendre la main aux classes populaires, ça commence effectivement les adducteurs vont commencer à souffrir, quoi. À un moment, le grand écart va être compliqué. Quand il recule sur les retraites, attention, quoi. Il y a tout son électorat de droite ou de centre-droit qui attend cette réforme, qui l'a attendue pendant tout le quinquennat. Vous avez eu les commissions de loi, on a discuté, la crise sanitaire est passée par là et a compliqué le parcours parlementaire, mais ce grand écart-là, il va être compliqué.
Julien Nenni, que va peser dans le fameux débat de l'entre-deux-tours? On se souvient qu'en 2017, il avait été décisif. Est-ce que là... Il est assuré de l'emporter face à une Marine Le Pen plus inexpérimentée?
Ah ben, l'excuse de l'inexpérience ne fonctionne plus cette fois-ci. Hein. Ça avait été un tel désastre en 2017. Elle assume maintenant, a posteriori, Marine Le Pen, ce débat face à Emmanuel Macron, que j'ai du mal à croire que ça puisse être pire pour elle cette année. Maintenant, de là à dire qu'Emmanuel Macron a gagné d'avance ce débat, la vérité, c'est que j'en sais strictement rien. Je ne sais pas comment ils vont le préparer. Est-ce que ce sera aussi décisif qu'en 2017? C'est une vraie question. On peut s'attendre en tout cas une stratégie totalement différente de Marine Le Pen. On s'en souvient, elle avait été extrêmement offensive, elle avait voulu tout faire pour faire sortir Emmanuel Macron de ses gonds en 2017. Cette année, la stratégie de Marine Le Pen, elle est bien différente. Elle a fait une campagne de second tour depuis le début, une campagne apaisée pour montrer, regardez, j'ai changé, je suis dédiabolisé à 100%. D'ailleurs, on l'a entendu ce matin sur France Inter, Marine Le Pen a déjà exclu totalement que Éric Zemmour puisse être ministre d'un de ses gouvernements. C'est très clair. Ça veut dire qu'elle ne veut surtout pas retomber dans le piège de la diabolisation, ne surtout pas s'associer à l'image très clivante.
Il a expurgé Éric Zemmour.
Voilà, c'est parfaitement cohérent avec la stratégie de Marine Le Pen depuis des mois.
Alexandra Schwarzbrod, sur ce débat de l'entre-deux-tours qui aura lieu pas ce mercredi, mais le mercredi suivant, est-ce qu'il n'y a pas le risque pour Emmanuel Macron, contrairement à 2017, de faire l'énarque parisien, monsieur je sais tout, face à une Marine Le Pen en disant je vais t'apprendre la vie? Sauf que les gens dont on parlait qui n'ont rien dans le frigo, ils vont dire elle défend le peuple.
Je crois qu'elle a beaucoup bossé. Elle a beaucoup bossé, Marine Le Pen. Elle a été traumatisée par l'échec retentissant de son débat, qui était même plus qu'un échec. Elle était ridicule.
Elle était gênée.
C'était terrible. Mais encore une fois, le problème, c'est que là, elle est davantage sûre d'elle. Lui, il est beaucoup moins. Et donc, ça va être compliqué. En effet, il ne faut pas qu'il adopte cette posture de surplomb qui lui a fait tant de mal pendant ce quinquennat. Cela dit, parce qu'on n'arrête pas de critiquer Emmanuel Macron à juste titre, parce qu'il a...
Non, mais on voit bien que par rapport à 2017, il est plus en difficulté, donc ça traduit une réalité.
Mais quand même, c'est ce qu'il faut. Et là, je pense qu'il faut absolument qu'il insiste sur ces deux points-là. Malgré tout, face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ça reste un démocrate, quand même, et ça reste un Européen. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant.
Ça peut être un argument, ça, avec Marine Le Pen, l'Union Européenne à laquelle les Français sont attachés en tant que telle pourrait être fragilisée.
Ah, mais c'est plus que fragilisé. Vous imaginez, après le Brexit, une Marine Le Pen à l'Élysée, l'Union Européenne vole en éclats. C'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe, parce qu'on le voit bien, et la crise ukrainienne le montre bien, l'Europe, c'est le seul avenir, c'est la seule chance du vieux continent, comme on dit, de s'en sortir. Donc ça, c'est quand même une carte dont il doit user, pas trop non plus, parce que l'Europe, d'accord, ça ne parle pas tellement à cette dame qui ne peut pas boucler ses fins de mois. C'est vrai que l'Europe, c'est très loin d'elle. Elle a surtout besoin de remplir son frigo et on la comprend. Mais quand même, auprès de tout cet électorat, justement, de gauche et de centre-droit et de droite classique, je pense que c'est une carte qu'il faut qu'il joue, parce que une Marine Le Pen à l'Élysée, au niveau européen, ce serait catastrophique.
Je nuancerai un tout petit peu le propos qu'on entend beaucoup sur « elle a beaucoup préparé, elle ne fera plus ». On n'aura pas le naufrage de la dernière fois dans le débat.
Des bourdes sont possibles.
Des bourdes sont régulières, surtout, depuis pendant la première campagne du premier tour. Il y a encore quelques jours, elle est dans Lyon, je crois. Elle a rencontré des infirmières, oui, dont elle dit qu'elle dépense 250 euros de carburant par jour.
Ah oui.
En fait, c'était 250 kilomètres.
Par jour.
De route, par jour.
Ça veut dire qu'elle pense que c'est possible de dépenser 250 euros par jour.
On peut dire ça arrive, on est fatigué, ouais, etc. Mais je veux dire, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'elle est dans une campagne où il faut être omniscient. C'est sûr que c'est compliqué, hein, mais c'est là où il faut qu'elle soit vigilante.
Est-ce qu'en même temps, hier, on a vu Emmanuel Macron un peu chahuté, hein, en terre frontiste à Denain dans le Nord. Est-ce qu'il ne paye pas là l'absence d'ancrage local de son parti et de lui-même, d'ailleurs, contrairement à une Marine Le Pen qui a été élue à Hénin-Beaumont, par exemple?
C'est ce fameux Jupiter dont on a plus trop parlé dans la deuxième partie du mandat, mais qui est toujours là, effectivement, et qui a ressurgi, en fait, régulièrement pendant le mandat, et ce côté un peu hautain, ce mépris.
Traverser la rue, je vous trouve du boulot.
Exactement. Ça précisément, c'est dans l'esprit d'un nombre incroyable d'électeurs de gauche, et pas seulement. Quiconque est passé par le chômage, franchement, va avoir du mal à mettre un bulletin pour Emmanuel Macron qui lui explique qu'il suffit de traverser la rue.
Alors Marine Le Pen, justement, était hier en déplacement dans Lyon pour parler de son programme. Et vous allez voir, dans son programme, il n'est plus du tout question d'immigration ou d'identité. Il n'est question plus que d'une chose, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Reportage de Caroline Mott, Lucie Berbet.
Ce devait être une journée de réunion pour Marine Le Pen. Mais finalement, changement de programme. Un déplacement est organisé au dernier moment chez cet agriculteur céréalier dans Lyon.
On est cerné par des augmentations de partout.
L'occasion d'évoquer ces thèmes de campagne, le pouvoir d'achat, l'inflation et ses conséquences sur les agriculteurs.
Il y a un autre nuage noir qui arrive sur la tête des Français et qui va être l'inflation des prix de l'alimentation.
Un déplacement comme un duel à distance avec Emmanuel Macron, parti en campagne dans le nord de la France, territoire où le Rassemblement national est fortement implanté.
Et là, il y a Denain pour voir les conséquences de 5 ans de sa politique, puisque Denain est une des villes les plus pauvres de France. Eh bien, j'espère qu'il en sera ressorti avec la conscience que sa politique a fait énormément de mal et que le pouvoir d'achat est une priorité absolue pour des millions de Français qui n'arrivent plus à faire face.
Pour ces militants venus apercevoir Marine Le Pen, aucun doute, c'est elle la candidate du pouvoir d'achat.
Julien Nenny, titre du Figaro ce matin. Marine Le Pen prolonge sa stratégie de premier tour. On ne parle pas d'immigration, on parle de pouvoir d'achat.
Voilà, je reviens sur les sondages déjà. Première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Évidemment, favorisé par les conséquences de la guerre en Ukraine, favorisé par l'inflation qui date d'avant encore, etc. Donc sa stratégie, elle est très claire. Parler d'immigration à tout va, comme l'a fait Éric Zemmour avec le grand remplacement pendant toute la campagne, là encore, ça irait à contrario de sa stratégie mise en place depuis des années, en fait. La dédiabolisation, là, on est au dernier stade. Voilà. Et elle récolte les fruits de cette stratégie qui est manifestement payante, qui lui permet de faire illusion, évidemment, et bien aidé en ça par Éric Zemmour. J'y reviens. Emmanuel Macron avait dit aux lecteurs du Parisien 2 jours avant le premier tour, Éric Zemmour a été le meilleur directeur de campagne de Marine Le Pen. Je crois qu'il a raison. Le président sortant, ça a complètement recentré l'image de Marine Le Pen. Ça l'a fait paraître comme beaucoup plus apaisée, comme beaucoup moins inquiétante, beaucoup moins clivante qu'Éric Zemmour. Il y avait plus radical qu'elle cette année, Marine Le Pen. Ça lui a permis de montrer par l'exemple, la preuve par l'exemple, qu'elle s'était dédiabolisée. C'est évidemment une stratégie de communication. Si on rentre dans le fond de son programme, les choses sont beaucoup plus inquiétantes. On parle de l'Union européenne, ces conséquences-là sont très claires. Mais sur l'image de Marine Le Pen, ce qui est aussi très important dans une élection comme la présidentielle, eh bien très clairement, cette stratégie de pouvoir d'achat rentre totalement dans la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Et ça fonctionne manifestement.
Ce qui fait qu'il est parfois plus facile pour les électeurs, notamment qui votent Yannick Jadot, de voter Marine Le Pen au second tour. Je vous propose de regarder cet extrait. Oui, c'est à Rouen. Rouen, c'est la ville qui a voté comme la France. Oui. Julien Dupont-Chel est allé sur un chantier. Il a interrogé des ouvriers qui ont des fins de mois difficiles. Eh bien, écoutez, le premier tour, il a voté Jadot. Et au second tour, on regarde cet extrait.
Bonjour. Vous avez voté Marine Le Pen ?
Non, moi, Yannick Jadot.
Yannick Jadot ?
Ouais. Je ne voterai pas Macron, mais Marine Le Pen, je ne suis pas sûr encore. Elle a 15 jours pour me convaincre.
Qu'est-ce qui fait qu'un électeur de gauche comme vous, aujourd'hui, est prêt à voter Marine Le Pen ?
Tout va de plus en plus mal. Tout augmente, sauf les salaires. Mais voilà, c'est de plus en plus dur. S'il n'y a plus que ça, on peut essayer ce genre de vote. On a à peu près tout essayé en France depuis 40 ans. Donc, pourquoi pas ?
Alexandre Schwarzbrot, vous avez vu, il ne dit pas... pourquoi vous avez voté Le Pen ? Il ne dit pas « il y a trop d'immigrés », il dit « tout augmente ». C'est beaucoup plus facile pour le peuple de gauche de voter une Marine Le Pen qui ne parle plus que de pouvoir d'achat, qui ne parle pas d'immigration.
Enfin, là, c'est quand même...
Ça vous étonne, cette passerelle, Jadot-Le Pen ?
Ça m'étonne beaucoup, beaucoup. Parce que ça, c'est une des grandes failles du programme de Marine Le Pen. Il n'y a quasiment pas un mot sur l'environnement. Ouais. C'est-à-dire que l'environnement est même pire même.
Elle veut démanteler toutes les éoliennes.
Pour rétablir le pouvoir d'achat et donc pour que l'énergie soit meilleur marché, elle est prête à prendre des décisions qui sont totalement contraires à ce qu'il faudrait faire en matière environnementale. Non, ça c'est incompréhensible. Et les gens de gauche qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen, il faut leur rappeler aussi, et ça vous l'évoquiez, que dans le programme de Marine Le Pen, il y a toujours la préférence nationale. Et donc c'est quelque chose qui est totalement contraire à tout ce que prône la gauche, c'est-à-dire l'égalité pour tous. Et donc, beaucoup de ces catégories populaires, beaucoup de personnes issues de l'immigration vont souffrir après, si Marine Le Pen est élue. Parce que ça va être un programme très dur en matière d'immigration, même si elle ne le dit plus. Bien sûr, elle se garde bien de ne pas en parler pour essayer d'attirer à elle le peuple de gauche. Et apparemment, ça marche. C'est ça qui fait très peur. Mais il faut bien rappeler quels sont les fondamentaux du programme du Rassemblement national. Et ils sont toujours les mêmes.
Oui.
Qu'un électeur de Yannick Jadot puisse envisager de voter
Marine
Le Pen...
Alors vous qui avez pas mal enquêté sur les Verts et l'électorat vert.
J'y vois qu'une explication, c'est la détestation d'Emmanuel Macron. Ah. Et pas forcément une adhésion à Marine Le Pen. Et je pense que le camp Macron n'a toujours pas bien perçu, s'ils l'ont perçu, tant mieux pour eux, mais le niveau de détestation, et on parlait tout à l'heure des chômeurs ou de la difficulté de trouver un emploi et de traverser la rue, enfin de la facilité selon eux, sur ces sujets environnementaux, c'est effectivement très compliqué d'imaginer ça. Et la détestation, quand on se souvient aussi d'Emmanuel Macron et des Amish, enfin ce côté très méprisant qu'il a eu de parler des préoccupations environnementales, pour ensuite dire l'inverse. Sur les questions environnementales, Emmanuel Macron, ça a quand même été des allers-retours permanents pendant tout le quinquennat. Sur le nucléaire, je ferme, j'ouvre. Sur la sobriété énergétique, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait son même si là, sur le tard, dans la campagne, ça surgit, mais ce n'est pas tout à fait son sujet. Donc, pour moi, un électeur Yannick Jadot qui envisage de voter Marine Le Pen, je n'y vois que la détestation de Macron.
La détestation, ce sont des mots très forts et qui disent bien le niveau de tension et de colère qu'il y a en ce moment en France, entre ces deux Frances, la France qui va bien, pour caricaturer, qui s'apprête à voter Emmanuel Macron, la France qui n'a plus de yaourt dans son frigo, qui s'apprête à voter Marine Le Pen. Eh bien, ces deux Frances, ça se passe mal. Écoutez, à la volée, cet échange recueilli toujours à Rouen, donc toujours cette ville test qui a voté comme la France en 2017. C'est pour ça que c'est intéressant. Écoutez cet échange entre ces deux Frances. Vous allez voir, le ton monte tout de suite très vite. C'est un échange recueilli par Julien Duponchel.
Je voterai blanc.
Madame disait, je vais voter blanc au second tour, vous ?
Moi, c'est Le Pen.
Vous, c'est Le Pen ?
Voilà.
Pourquoi ?
Et moi, c'est Macron.
Et vous, c'est Macron ?
Parce que Macron, on a eu jusqu'ici.
Il n'a pas fait que des mauvaises choses, contrairement à ce que vous dites, madame.
Mais non, les immigrés, il y en a marre des immigrés.
Vous n'allez pas nous parler des immigrés pendant toute la journée, non ?
Ils annoncent plein de choses et ils ne font rien.
De toute façon, ils sont tous pareils. Quand ils font leur politique, ils vous disent plein de trucs. Et quand c'est le moment de passer, ils retournent leur veste.
Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit.
Ben oui, je dis pas le contraire.
Elle retournera sa veste parce que toutes les promesses qu'elle fait,
on ne vous réconciliera pas.
Non, mais non.
Vous n'êtes pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord.
Julien Nenni, quelle quel que soit le nom du futur président, il aura du mal, en tous les cas en septembre, entre la hausse des prix, cette tension sociale qu'on a vue s'exprimer au travers des Gilets jaunes, la France va être compliquée à gouverner au cours des 5 prochaines années.
Non, mais les fractures sont béantes, hein. On l'a vu, les 3 blocs sont là, le bloc central incarné par Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, et les 2 blocs protestataires qui représentent plus de 50%, incarnés à gauche par Jean-Luc Mélenchon, à droite par Marine Le Pen. Comment faire pour résorber ces fractures-là? C'est un point d'interrogation majeur pour le futur quinquennat. On se souvient de 2002, Jacques Chirac, qui avait été élu face à Jean-Marie Le Pen, ça avait été un tremblement de terre à l'époque, il avait fait l'erreur à l'époque, Jacques Chirac, de ne pas ouvrir les bras, de rester cantonné sur l'UMP à l'époque. Il venait d'être créé. Et ça avait beaucoup, beaucoup froissé, notamment la gauche qui s'attendait à un geste d'ouverture de la part de l'ancien président. Que fera Emmanuel Macron s'il est réélu cette année? Il l'a déjà dit, hein, il veut inventer quelque chose de nouveau.
Nouveau. Voilà. Alors ça, personne n'a compris ce que c'était.
Hein. Et c'est volontairement flou, mais ça peut être interprété comme une volonté, contrairement à Jacques Chirac en 2002, d'ouvrir encore davantage sa grande coalition. On verra ce que dira Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, hein, là-dessus, qui prône, on le sait, depuis des mois, un accord de coalition du gouvernement avec Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs devrait donner son soutien à Emmanuel Macron, peut-être à la mi-journée aujourd'hui dans un communiqué.
Ah.
C'est en cours de confirmation, mais c'est l'information qui commence à circuler depuis ce matin. On verra si elle se vérifie.
Petit scoop au passage. Alexandra Schwarzbrod, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'affaiblissement des partis de gouvernement. Alors d'ailleurs, est-ce que ça a été organisé par Emmanuel Macron ou est-ce que ça s'est fait naturellement? On parle beaucoup de l'affaiblissement des syndicats. On a l'impression que tout ce qui structurait notre vie politique, notre vie sociale durant la Ve République, s'est affaibli et qu'il n'y a plus que cette colère qui n'est plus canalisable.
Oui, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Autrefois, c'était l'Église et l'école.
On voit bien que
ensuite, ça a été les syndicats. Tout ça s'est effondré. Alors, ils n'ont pas attendu Emmanuel Macron. Les partis traditionnels, les partis gouvernement n'ont pas attendu Emmanuel Macron pour commencer à...
Parce qu'on dit beaucoup, c'est lui qui a fracturé la droite et le PS.
Mais je pense qu'il a achevé de le fracturer plutôt. Hein, parce qu'on voit bien que là, c'est toute une génération, en fait, qui est en train de disparaître. Les éléphants au PS, dont plus personne ne veut entendre parler. C'est un parti qui est à bout de souffle. Il n'y a plus d'incarnation. Il n'est plus incarné par personne, ce parti. Il n'y a plus de projet, plus de nouveautés. C'est pareil chez LR. On arrive au bout d'une histoire. Et les syndicats, Emmanuel Macron a beaucoup fait pour outrepasser le pouvoir des syndicats, des élus locaux. Là, c'est pareil. Il a beaucoup affaibli les corps intermédiaires. Tout ce qu'on appelait les corps intermédiaires, tout ça a été affaibli par Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que là, il récolte un petit peu ce qu'il a semé, Emmanuel Macron. On voit bien que tout ça est un champ de ruines et qu'il n'existe plus aujourd'hui en France que ces angoisses, cette angoisse du lendemain, cette angoisse que fait peser la guerre, cette angoisse des prix de l'énergie qui flambent, cette angoisse de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. Cela dit, le quoi qu'il en coûte a quand même été le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron pendant la pandémie, il a quand même beaucoup aidé aussi à tenir certains. Hein, je pense notamment aux restaurateurs, à toute cette catégorie de personnes qui a pu tenir aussi grâce au quoi qu'il en coûte pendant la pandémie.
Alors, avant de revenir sur l'effondrement et la disparition de... Enfin, pas la disparition, la grande difficulté de LR... Un dernier mot sur celui ou ses électeurs qui vont probablement faire la victoire ou la défaite. Je veux parler des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient près de 22%. Il n'y a eu que 400 000 voix d'écart avec Marine Le Pen. C'est dire le nombre de voix qu'il a totalisé. Donc que vont-ils faire au second tour? Vont-ils s'abstenir à voter Marine Le Pen ou voter Emmanuel Macron? Je vous propose éléments de réponse avec Margot Subra-Gomez.
Éliminé aux portes du second tour, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score qu'aucun sondage n'avait prédit. Près de 22% des électeurs l'ont plébiscité. Il se retrouve en position d'arbitre. À Montreuil, il est arrivé en tête et ses électeurs sont indécis pour la suite.
Ce choix est compliqué, bien sûr. Donc, pour l'instant, ces points d'interrogation, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
En fait, les deux parties, en présence, me font peur.
Jean-Luc Mélenchon a appelé à ne donner aucune voix à l'extrême droite. Certains de ses électeurs y ont vu un message clair. Ils voteront Emmanuel Macron au second tour.
Je pense que ça va partir sur Macron pour essayer de
faire partir l'extrême droite, mais encore une fois, finalement, on se rend compte que c'est pas voter pour quelqu'un, mais voter contre quelqu'un.
L'affiche du second tour décourage nombre des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, comme ici à Foix. Pour eux, c'est décidé, ils s'abstiendront dans 15 jours.
Je vais pas aller voter, je pense.
Pourquoi ?
Parce qu'à 5 ans, on a voté Macron et que ça a pas du tout donné ce qu'on voulait. Je me vois pas voter Le Pen non plus, donc je voterai pas.
Ni l'un ni l'autre. Si encore le blanc, ça valait quelque chose, je ferais ça.
Bérangère Bonte, d'abord, un mot sur l'ampleur quand même de ce score, 22%. Il y a ce matin, c'est Le Figaro qui titrait dans Le Parisien, ils n'en reviennent pas d'avoir voté insoumis, insoumis d'un jour. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, à Lyon, à Bordeaux, Jean-Luc Mélenchon est arrivé quasiment en tête.
On a tous, dans, alors pour le coup, là, c'est des petits sondages personnels, mais dans nos entourages, des gens qui votaient LR, qui ont voté, qui ne voulaient pas voter pour Valérie Pécresse et qui ont voté pour Mélenchon, des gens d'un peu tous les horizons.
Qui ont voté,
il est quand même, faut lui reconnaître un talent d'abord de tribun, on l'a suffisamment signalé, et dans une campagne présidentielle, c'est fondamental. Il a un talent pour aller, je crois, chercher les abstentionnistes, qui est indéniable. Et qui, du coup, rend cet électorat un peu difficile à cerner, en fait. C'est pas aussi clair qu'il y a quelques années, sans doute, où on se demanderait les voix de gauche, où pourraient-elles aller. Là, on a un électorat, ceux qui sont allés, qui ont fait exception, qui se lancent, qui se sont laissés entraîner au dernier moment et qui n'auraient pas voté sans ça, qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois ? Là, dans les projections qu'on a, on est sur un tiers quand même. Jean-Luc Mélenchon a beau dire pas une voix pour Mme Le Pen, il l'a dit avec beaucoup d'humour quatre fois de suite. Il y en a quand même
30%.
Un peu plus de 30% qui disent clairement qu'ils iront pour...
Il n'a pas appris à voter pour Macron. Hein.
Et il n'a pas, évidemment, c'est ça. Voilà. Évidemment, quand on signale qu'il a... Il dit avec beaucoup d'humour, très clairement, je ne voterai pas, je ne veux pas de voix pour Marine Le Pen, il dit toujours pas clairement, comme il y a 5 ans, votons Macron pour être clair. Quoi.
Alexandra Schwarzbrod, comment analysez-vous cette percée de Jean-Luc Mélenchon et selon vous, comment se feront les reports de voix au second tour ?
Le vote utile, ça a cartonné le vote utile. Ça a cartonné chez plein de gens qui se sont dit, c'est le seul qui représente la gauche. Donc, il faut que quelqu'un de gauche, si on veut qu'au second tour, qu'il y ait une voix de gauche, le seul, c'est Jean-Luc Mélenchon, et qui ont essayé de surmonter leur réticence liée à la position les positions internationales de Jean-Luc Mélenchon, qui sont quand même sur lesquelles il y a beaucoup à redire, mais qui ont surmonté ça parce que c'était pour que la gauche soit au second tour, et surtout qui se sont dit, si on veut dégager Marine Le Pen du second tour, le seul moyen, c'est de voter Mélenchon. Et donc, moi, j'ai vu aussi,
doublement utile.
Beaucoup de gens, doublement utile. J'ai vu beaucoup de gens dans mon entourage, des gens qui vraiment dont je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent voter Jean-Luc Mélenchon, qui sont tous allés en masse voter Jean-Luc Mélenchon pour justement dégager Marine Le Pen de la deuxième tour et pour qu'une voix de gauche apparaisse. Et donc ça, cette consigne du vote utile, et on a bien vu, c'est ça qui a siphonné le score de Yannick Jadot, par exemple, hein, qui normalement devait être un peu plus élevé. Et je pense que plein de gens qui voulaient voter Jadot se sont dit non, ça ne sert à rien, vu qu'il est quand même loin derrière, ça ne sert à rien, alors que Mélenchon, ça peut être utile pour éviter l'extrême droite au second tour.
Oui, Julien Denis.
Oui, c'est pour moi l'enseignement majeur de ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est l'avènement de l'électeur stratège, le vote utile. Et ça met en lumière l'influence considérable des sondages. Parce que c'est quoi le vote utile ? Le vote utile, c'est les sondages, c'est rien d'autre. Pourquoi les électeurs de gauche se sont dit « ça sert à rien de voter Jadot, allons voter Mélenchon » ? Parce que Mélenchon était à 15-16% 2-3 jours avant le premier tour, alors que Yannick Jadot était autour de 5. Donc ils se sont dit « bah voilà, moi mon vote, j'ai envie qu'il serve à quelque chose, j'ai pas envie que Marine Le Pen soit au second tour, donc je vais voter Jean-Luc Mélenchon ». Ça marche aussi à droite. Les électeurs qui étaient tentés par Valérie Pécresse, ils se sont dit, bah voilà, peut-être que Mélenchon va être au second tour face à Le Pen, c'est mon cauchemar absolu, donc je vais voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron. C'est l'avènement de l'électeur stratège. Pour moi, c'est vraiment le fait majeur politique.
Ouais.
Vous voulez un scoop ?
Oui.
Qui confirme les informations que vous donniez il y a quelques minutes, Nicolas Sarkozy sur Facebook annonce qu'il va voter Emmanuel Macron.
Ah, et bien voilà.
C'était censé être pour la mi-journée, finalement ça tombe à 10h, mais c'était dans les tuyaux depuis quelques instants.
Justement, on part ausculter la défaite et la déroute de LR et s'interroger sur la responsabilité de Nicolas Sarkozy, qui on sait n'aura pas levé le petit doigt pour aider Valérie Pécresse, qui a perdu pied durant cette campagne. Et c'est maintenant une faillite en plus financière pour Valérie Pécresse. Je vous propose de voir ce sujet de Anne-Claire Poignard.
Lendemain de défaite amère pour Valérie Pécresse,
Avec moins de 5% des voix, la candidate Les Républicains lance un appel aux dons pour rembourser sa campagne.
Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle.
Une candidate endettée, un parti divisé. Quelle consigne pour le second tour ? Éric Ciotti ne votera pas Emmanuel Macron. Xavier Bertrand pense au contraire qu'il ne faut pas tergiverser. Au siège des Républicains, les ténors du parti se sont concertés pendant une heure et demie pour tenter de trouver l'équilibre.
Aucune voix ne se portera jamais sur Marine Le Pen. Simplement, certains choisiront de voter blanc et d'autres choisiront un bulletin Macron. C'est une réalité, on ne va pas la cacher.
Depuis hier soir, il y a donc ce majoritaire qui appelle à voter pour Emmanuel Macron. Michel Barnier, l'ancien candidat à la primaire, est de ceux-là.
Sans hésitation, je voterai pour M. Macron, parce que je suis et je reste patriote et européen.
Le sénateur Bruno Retailleau lui votera blanc. D'autres, à l'aile droite du parti, laissent les électeurs à leur propre choix. Pas de consigne de vote. Le député Julien Aubert préfère penser à la suite, les législatives.
Les Républicains veulent survivre et ils vont présenter une option différente aux législatives.
Limiter la casse aux législatives pour sauver la face après une déroute historique.
Alexandra Schwarzbrod, les Républicains veulent survivre. Quel avenir vous leur prévoyez ?
Pour l'instant, on ne leur voit pas beaucoup d'avenir. On voit bien, il suffit d'écouter ses principaux leaders. Ils sont totalement divisés. Divisés entre ceux qui sont plutôt macronistes ou en tout cas qui ont la conviction. On a vu Xavier Bertrand qui a été très mauvais pendant la campagne des primaires, totalement éteint, mais à qui on doit quand même qu'on doit saluer pour sa position lors des dernières régionales. C'est quelqu'un qui a été traumatisé par l'avancée de l'extrême droite dans son fief, dans sa région, et qui s'est dit à ce moment-là jamais plus. Il faut pas laisser passer l'extrême droite, et qui là du coup est très clair sur le sujet, hein, qui votera Macron pour freiner l'extrême droite. Mais vous avez tous les ciotistes. Les ciotistes vont voter Le Pen, c'est évident.
Donc le parti va...
Le parti est totalement explosé, avec des personnalités qui souvent, en plus, sont très aigries. Hein. Je pense à Barnier, Bertrand, tous ces gens-là qui ont cru qu'ils avaient une chance peut-être pour cette campagne et qui ont été sèchement écartés. Donc des gens aigris, des gens qui se détestent, avec des vieux règlements de compte, cette ombre de Sarkozy qui n'a pas voulu aider. Enfin, c'est vraiment... C'est une série télé, une série policière incroyable avec tous les couteaux.
Donc on ne s'entend pas sur le fond et on ne s'entend pas sur la forme.
Couteaux sont sur la table, donc ça va être terrible.
Personne ne croit à cette union de façade, effectivement, qui a été présentée hier. Je ne sais pas si on peut dire que tous les ciotistes voteront Marine Le Pen, honnêtement. Mais en tout cas, clairement, eux n'appellent pas. Vous avez un Xavier Bertrand, un Michel Barnier, on l'a entendu, une Rachida Dati, un Jean-François Copé, tous ces gens-là qui disent « je vais voter Emmanuel Macron ». Les autres, on est encore dans le flou de d'il y a 5 ans, effectivement. Alors, ils payent l'absence de ligne claire pendant toute la campagne issue des primaires, clairement.
D'ailleurs, elle l'a dit. Hein.
Voilà. Et puis, le problème, c'est que, puisqu'on parle de payer, c'est aussi un parti qui est ruiné. Ils ont vendu leur siège il y a 3 ans. Ils le louent aujourd'hui, la rue de Vaugirard. Il y a bien d'argent dans les caisses pour une campagne qui va... Comment on finance la campagne des... Ils ont une centaine de députés sortants. Il va bien falloir financer cette campagne.
D'ailleurs, Julien Nenni, par quel phénomène... s'est-elle retrouvée à payer sur ses deniers personnels cette campagne 5 millions? C'est elle, à titre personnel, qui a fait l'emprunt?
Oui, il y a quelques mois auprès d'une banque, parce qu'elle le peut d'abord. Hein, la loi l'y autorise et parce qu'elle a un patrimoine suffisamment important pour pouvoir, sans problème de confiance avec sa banque, emprunter 5 millions d'euros. Aussi, évidemment, parce que personne n'imaginait une seule seconde, ni elle-même, ni son camp, ni la banque, qu'elle ferait moins de 5% et donc qu'elle ne serait pas remboursée de ses frais de campagne par l'État. Ça permettait aussi à son parti, les Républicains, de ne pas avoir à promettre au pot, entre guillemets. Le trésorier de la campagne de Valérie Pécresse m'expliquait hier, par ailleurs, que c'était une pratique assez courante chez la plupart des candidats qui peuvent se le permettre, de compléter, de mettre au pot, entre guillemets, pour compléter le budget de la campagne. Mais là, effectivement, elle se retrouve en difficulté parce qu'elle a emprunté 5 millions, que si l'État l'avait remboursé, l'État aurait donné 7 millions. Donc, le delta, les 2 millions, c'est son parti, les Républicains, qui le donnent. Mais il faut trouver 5 millions d'ici le 15 mai, d'où cet appel national aux dons lancé hier matin, à la surprise générale, hein, urgence absolue. Il en va de la survie de la droite républicaine.
Mais il en va de sa survie à elle aussi.
De sa survie à elle, oui, parce que bah évidemment, c'est pas à elle non plus de payer de sa poche la moitié des frais de sa campagne, même si elle en aurait peut-être les moyens, notamment avec.
Enfin, la politique, c'est pas fait pour se ruiner. Sinon, il y a plus que les riches pour faire la politique.
Hein. Exactement. Sinon, c'est les systèmes américains. Mais c'est les plus riches qui peuvent être candidats et peut-être président. On pense à Donald Trump notamment. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est une humiliation supplémentaire à tel point, vous avez peut-être vu ça, que Jean Lassalle lui-même
a fait un petit chèque.
Europe Écologie Les Verts.
On sait pas de combien.
On ne sait pas de combien, mais c'est une petite humiliation supplémentaire, il ne faut pas se le cacher.
Alexandra Schwarzbach, une petite humiliation supplémentaire. C'est vrai qu'on l'a sentie affectée au soir de la défaite, elle n'a absolument pas cherché à maquiller.
Elle avait les larmes aux yeux.
Elle avait les larmes aux yeux, oui. Comment vous avez jugé sa campagne?
Alors,
tout le monde dit qu'elle a été terriblement mauvaise.
La campagne des primaires, elle a été excellente, parce qu'elle détonnait sur ses costards cravates, ternes, gris, ennuyeux. Je ne parle même pas de Michel Barnier, ils étaient tous, c'était vraiment sinistre. Et elle détonnait un peu, parce qu'elle avait bossé, elle connaissait ses dossiers par cœur. Et donc, elle incarnait un peu, bizarrement, une espèce de nouveauté, alors qu'elle est là depuis longtemps dans le paysage. En revanche, une fois investie, elle a été catastrophique et je pense qu'elle a été mal entourée, mal conseillée. Et ensuite, c'est une femme qui ne... Il y a cette expression qu'on utilise beaucoup en politique, fondre l'armure. Elle n'a pas su, par exemple. Elle n'a pas su mettre ses tripes sur la table.
Alors, un militant, citer par Le Monde, quand je l'ai entendu, alors on va voir le carton,
au Zénith.
Je me suis dit, c'est mal barré. Est-ce que tout le monde a senti de la gêne?
Mais on était tous. Rien que d'y penser, d'ailleurs, j'en ai des frissons d'épouvante, tellement c'était.
Mais l'erreur, c'est quand on est mauvais dans quelque chose, pourquoi on le fait?
Mais là, de toute façon, elle était obligée. Les meetings, vous voyez, faire une campagne électorale sans aucun meeting, c'est pas possible. Les meetings, c'est le. Il faut aller au contact du. Il faut soulever la foule comme de la pâte à pain. C'est ce que François Hollande avait très bien réussi à faire lors de ce meeting.
Du Bourget,
sur la. La finance. La campagne avait basculé pour lui à ce moment-là. Et là, Valérie ça a été Pécresse l'inverse aussi. Pour Valérie Pécresse, mais dans l'autre sens. Et elle n'a pas réussi à remonter ce retard.
Espérons pour eux et pour tous les autres partis qu'ils entendront, qu'ils retiendront la leçon. On n'est pas non plus obligé de faire un grand meeting gaullien avec une grosse voix et en marchant comme un robot.
Angela Merkel fait-elle des meetings en Allemagne comme ça?
C'est terriblement ennuyeuse, Angela Merkel.
Martine Aubry, par exemple, parce que je cherche des noms de femmes parce qu'on a beaucoup dit c'est parce que c'est une femme, c'est parce que la voix d'une femme ne porte pas, c'est
non,
une
ça,
bêtise. Ouais. Chacun a sa personnalité, il y a aussi des hommes qui n'ont pas une grosse voix et qui n'ont pas beaucoup de prestance. Il faut trouver une façon de s'adapter à la personnalité de la candidate, ça n'a pas de sens d'essayer de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et ça, pour le coup, l'entourage de LR...
Donc le fameux aussi. Patrick Stefanini dont on disait que c'était un artiste de la campagne, là il s'est plutôt planté quoi.
Il a en tout cas, on va pas dire qu'ils l'ont fait intentionnellement, mais honnêtement ils l'ont vraiment pas aidé. Quoi.
Oui. Sur les meetings.
Vous qui avez suivi toute cette campagne,
au quotidien.
Racontez-nous un petit peu le rideau. Là.
Elle a rectifié le tir, Valérie Pécresse, après le Zénith. Il y a eu un grand meeting 5 jours après au Canet, dans les Alpes-Maritimes, où ça n'avait plus rien à voir sur le fond comme sur la forme. D'ailleurs, exit les polémiques sur le grand remplacement et les Français de papier, ça c'est pour le fond. Et puis sur la forme, plus de discours, plus de pupitres, a cappella, comme elle le disait, c'était son expression, sans texte préécrit, etc. Elle était beaucoup plus à l'aise. Il était très réussi ce meeting du Canet. Le problème, c'est que le momentum, comme on dit, c'était le Zénith. Et ça, c'est l'erreur de son équipe de campagne. Parce que dans la semaine
précédente... Tout le monde a communiqué sur le Zénith.
Voilà. Dans la semaine précédente, le Zénith, je m'en souviens très bien, tous les pécressistes, tout son entourage, on parlait de Patrick Stefanini, mais c'est pas le seul, nous l'avait vendu comme le discours de sa vie. C'est le tournant de la campagne, c'est le Bourget de Valérie Pécresse en référence à François Hollande en 2012. Vous allez voir ce que vous allez voir, ça y est, enfin, la deuxième fusée de la campagne va partir. Il y avait un nouveau slogan, la nouvelle France, des nouvelles identités graphiques, bref, ça allait être, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, on a vu. Voilà. Et à force de nous le survendre, entre guillemets, aux médias aussi et aux militants, eh ben, la déception n'en a été que plus grande. L'effet inverse à celui espéré s'est produit. Et elle a eu beau faire des meetings beaucoup plus réussis par la suite, je pense à celui du Canet, mais aussi celui du 3 avril, le dernier grand meeting porte de Versailles, il était objectivement très réussi aussi. Ça n'a pas passé le mur du son parce que tout le monde avait gardé dans la rétine et dans l'oreille l'échec retentissant du meeting du Zénith. Et puis, pour terminer là-dessus, Valérie Pécresse elle-même l'a reconnu, hein, c'est son plus grand échec de la campagne. Et elle l'avait expliqué, elle a dit « j'avais voulu faire un discours d'homme ». Voilà. C'est comme ça qu'elle le dit elle-même, avec cette grosse voix, cette intonation complètement robotique, mécanique, pas du tout naturelle, qui a eu un effet désastreux à la télévision pour tous ceux qui l'ont vu, et elle n'a jamais réussi à s'en remettre.
Ah, je ne connaissais pas cette anecdote, j'ai voulu faire un discours d'homme.
Elle le dit comme ça.
Ah, ce que vous disiez. Alexandra Schwarzbord.
Non, excuse. Pardon, ce qui est très intéressant, c'est que, en revanche, elle a été très bonne lors de son dernier discours, ouais, dimanche soir. Et c'est là où on voit, parce que là, elle avait plus de jeu à jouer. Elle était nue, si je puis dire. C'est-à-dire que là, toutes les défenses étaient tombées. Et là, elle a paru humaine, avec beaucoup. Elle a dégagé beaucoup d'émotions. On sentait son émotion, son atterrement devant ce résultat qui était du jamais vu. Et là, elle a plutôt été bonne, elle a fait un bon discours.
Son courage à prendre sur elle, à dire
c'est de ma faute. Non, elle a été très bien. Et c'est là où on voit que parfois les entourages, les il faut se méfier, il faut essayer de garder sa propre personnalité et de se laisser porter par son émotion, parce que on voit bien que les gens ont besoin d'être touchés, ils ont besoin de sentir qu'on leur parle à eux et non pas qu'on est mécanique, qu'on a un discours mécanique.
Après, elle fait 4,7%, il ne faut pas l'oublier non plus, ce n'est pas que de la forme. Elle paye vraiment un manque de clarté de ligne. Ils n'ont plus de ligne, on ne sait plus où ils sont. Et il faut reconnaître que c'était compliqué puisqu'ils étaient coincés entre Marine Le Pen.
Et puis c'est eux qui ont été siphonnés par Zemmour.
Et puis Emmanuel Macron, qui avait quand même bien siphonné depuis 5 ans. Donc c'est sûr qu'il fallait trouver un positionnement un peu clair. La primaire l'a mise dans une position compliquée avec les ciotistes. Et le fait est qu'on ne savait plus bien où était Valérie Pécresse, quoi. La centriste qu'elle était au départ, avec des positions, on s'en souvient, sur le mariage post-tous, etc. Mais bon, il y avait Valérie Pécresse, on voyait à peu près qui c'était. Valérie Pécresse sortie de la primaire, on ne comprenait plus.
Mais la primaire, d'ailleurs, est-ce que chez les LR, on commence à s'interroger sur la primaire? Parce que ça fait 2 fois de suite qu'ils perdent, 2 fois que c'est à l'issue d'une primaire.
Alors, la réponse est un grand oui chez LR. C'est le cas aussi chez les socialistes et chez les écologistes. Ouais. C'est peut-être la mort des primaires aussi, hein, cette élection présidentielle 2022. On voit bien, ça clive. Ça crée des clivages parfois de façade pour se différencier de son concurrent, alors qu'il partage 99% des mêmes orientations, même s'il y a des nuances importantes à apporter à ça. Et puis, il y a aussi un problème de calendrier. Depuis hier, j'ai beaucoup de cadres des Républicains...
Elle est partie trop tard.
Qui critique le calendrier Jacob. C'est Christian Jacob qui avait voulu imposer ce système de départage, parce qu'il fallait surtout pas dire primaire à l'époque. C'était une primaire fermée, voilà, on va pas se payer de mots, au mois de décembre. Et ils estiment que finalement, Valérie Pécresse, sa candidature a été un peu improvisée. Elle s'est lancée au mois de juillet. Avant, elle était complètement focalisée sur sa réélection régionale dans sa région d'Île-de-France, alors qu'un Xavier Bertrand, par exemple, ça faisait 4 ans qu'il se préparait. Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy avant, ça faisait des années qu'il se préparait aussi. Il y a un cadre de LR hier qui me disait en off, comme on dit, le fillonisme, ça existait. Le juppéisme, le sarkozisme, ça existait. Même le bertrandisme, ça existait. On voyait ce que c'était. Le pécressisme, d'ailleurs, vous voyez, le mot, on l'a presque pas utilisé pendant la campagne. Ça n'existe pas. Elle a été obligée d'intégrer une partie des programmes de ses concurrents de la primaire à partir de décembre. Ça a été fait de briquet de broc. En janvier, le programme n'était toujours pas réellement prêt. Il y a une part d'improvisation. Est-ce que Valérie Pécresse était totalement prête à une telle campagne, à une élection présidentielle, la première de sa vie? C'est un vrai point d'interrogation et je pense que ça explique pour beaucoup ses difficultés pendant cette campagne.
Alors, vous le disiez, Valérie Pécresse, il n'a pas toujours été aidé par son entourage et on pense notamment à Nicolas Sarkozy. Vous parliez du meeting du 3 avril. Que s'est-il passé le 3 avril? Eh bien, Nicolas Sarkozy a été sifflé à un meeting LR. Oui, c'est arrivé. Ce n'était pas ce dimanche, le dimanche d'avant. On regarde, c'était un extrait de votre sujet d'ailleurs, Julien.
Au premier rang face à elle, tous les ténors de la droite, ou presque. Nicolas Sarkozy, pourtant invité, brille à nouveau par son absence et son silence. L'ancien président est même hué par une partie de la salle lorsque ce soutien de Valérie Pécresse le cite plus tôt dans l'après-midi.
Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction. Bien au contraire, vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le Grenelle de l'environnement.
Il a trop tendance à aller avec Macron. Il joue sur deux tableaux. Moi, j'aime pas ça.
Bon, Julien Lenny, comment est-il perçu aujourd'hui? Dites-le nous, Nicolas Sarkozy, chez LR.
Il y a une colère sourde, même chez lui à Neuilly-sur-Seine. Hein, j'ai pu m'en apercevoir, même en marge de tous les meetings de Valérie Pécresse ces dernières semaines. Je posais systématiquement la question après les meetings. Et alors, le silence de Nicolas Sarkozy, ça vous inspire quoi? De la colère. On est en direct à la télévision, je ne prononcerai pas les mots que j'entendais parfois. Mais très clairement, ils lui en veulent énormément à l'ancien président.
Parce chez que, les militants, chez les
chez
cadres
les militants LR. Les militants. Même des gens qui me disaient, mais moi, vous savez, je suis un sarkozyste pur jus. J'ai collé ces affiches à 3h du matin en 2007 et en 2012, etc. Mais là, c'est pas possible. Il y a un problème de fidélité de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Valérie Pécresse. Je pense pas une seule seconde que si Nicolas Sarkozy s'était affiché avec Valérie Pécresse pendant la campagne, elle aurait accédé au second tour. C'est évidemment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complet que ça. Mais très clairement, ça a été un boulet qu'elle a traîné pendant toute la campagne, à tel point que dans l'entourage le plus proche de Valérie Pécresse, certains ont conseillé à la candidate LR qui n'a pas suivi ce conseil, pardon pour l'expression, mais c'est exactement comme ça qu'on me l'a dit, d'envoyer chier Nicolas Sarkozy. C'est comme ça que ça a été conseillé à Nicolas, à Valérie Pécresse. Et elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas aller jusque-là. Elle s'est contentée de son élément de langage qu'elle a donné à chaque fois qu'on lui posait la question. Moi, je trace ma route, je ne veux pas être une candidate sous tutelle. Mais de là à complètement écarter et à dire, ouais. Ah, mais moi, finalement, Nicolas Sarkozy, j'en ai pas besoin, elle n'a pas voulu aller jusque-là.
D'un mot, Alexandra Schwarzbrod, donc c'est l'information. Hein. Nicolas Sarkozy appelle à voter Macron pour trois raisons, les valeurs républicaines, la valeur travail et l'engagement européen.
On n'est pas très surpris, objectivement. Hein. On sait depuis longtemps que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sont très proches. Alors, est-ce que c'est uniquement par pure affinité ou par intérêt? Je pense que c'est un mélange des deux. Donc, ça n'a rien de surprenant. Simplement, tout ce qui vient d'être dit, on voit bien qu'on est à la fin d'une période, d'une histoire, d'une génération. Là, c'est LR, on est avec Nicolas Sarkozy sifflé, on va passer à autre chose.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission très instructive et très intéressante. Vous restez sur France Info. Je rappelle que l'Info C'est Clair est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain à la même heure pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.